Sonobook présente, avec l'autorisation de Moira Harrison, Soleil vert de Harry Harrison. Traduction française de Emmanuel de Moratti, tout droit réservé. Interprété par Frédéric Knepp. New York, août 1999. Au milieu d'une population de 35 millions d'hommes qui a retrouvé les fléaux et les grandes peurs du Moyen-Âge, un jeune policier, Andrew Rush, recherche l'auteur du meurtre de Mike O'Brien, un des gros bonnets du marché noir. Mais pourquoi poursuivre un criminel quand on sait que la victime méritait mille fois la mort? Comment faire respecter la loi et l'ordre quand on est soi-même talonné par la solitude, l'angoisse et le désespoir? Au cours d'une enquête mouvementée, alors qu'à la veille de l'an 2000, la ville est infestée par les prophètes du malheur, Andrew Rush va découvrir sur quoi se fonde la puissance des maîtres du futur. Alliant la tradition du roman noir au sortilège du space opéra, Le Soleil vert est un grand voyage au cœur d'un avenir possible, peut-être inévitable. De ce roman de Harrison, la Metro-Goldwyn-Mayer a tiré un grand film mis en scène par Richard Fletcher et dont la vedette est Charlton Heston. Conseiller technique du film, le professeur Bowerman écrit « J'ai accepté de servir de conseiller technique pour Le Soleil vert parce que j'estime que ce film offre une image réaliste de notre avenir. J'ai la ferme conviction qu'une croissance démographique sauvage, s'ajoutant à la pollution croissante de l'atmosphère et des mers, constitue le problème le plus grave que l'humanité est présentement à résoudre. Si l'univers continue d'être pollué et surpeuplé, il en résultera inévitablement des bouleversements considérables dans notre mode de vie, une prolifération de crimes, de meurtres, de révoltes et un état général de misère et de famine. À moins que des mesures soient prises dès maintenant, nos cités déborderont bientôt de chômeurs réduits au vagabondage et dépendant pour leur subsistance de l'aide du gouvernement. Les commodités auxquelles nous sommes accoutumés, l'électricité, la lumière, la chaleur, etc., ne seront plus disponibles. Les sous-sols du métro deviendront de vastes dortoirs. Des véhicules, désormais inutilisables, encombreront les rues et les transports aériens seront paralysés. Certains pays, comme l'Inde, ont déjà atteint le point critique. À New Delhi, 50 000 hommes et femmes vivent et dorment dans les rues. Les fourgons emportent chaque matin des centaines de cadavres. Les statistiques concernant Bombay et Calcutta sont encore plus effrayantes. Les conséquences d'une attitude de « laisser faire » seraient désastreuses. Je suis en désaccord radical avec ceux qui soutiennent que la Terre peut supporter indéfiniment la croissance démographique présente. Nos réserves nutritives s'épuisent. Nos océans se meurent. Notre atmosphère devient chaque jour plus impure et nos ressources minérales sont exploitées largement au-delà des limites raisonnables. Certains prétendent que de tels propos ne sont pas fondés et que ces craintes sont excessives. En tant que spécialiste de l'environnement, j'insiste sur le fait qu'elles sont justifiées. Il est encore temps de faire marche arrière et d'agir. Dans le cas contraire, Le Soleil vert cesserait d'être un simple avertissement. Il deviendrait l'épitaphe de l'humanité. Prologue. En décembre 1950, le président des États-Unis, Dwight D. Eisenhower, déclarait « Aussi longtemps que je serai là, ce gouvernement n'aura pas de doctrine politique ferme sur le problème du contrôle des naissances. Ce n'est pas notre affaire. » Depuis cette époque, ça n'a été l'affaire d'aucun autre gouvernement américain. En 1950, avec seulement 9% de la population mondiale, les États-Unis consommaient 50% des matières premières du globe. Ce pourcentage continue à s'élever et au taux de croissance actuel, les États-Unis consommeront dans 15 ans plus de 83% des ressources annuelles du monde en matières premières. À la fin du siècle, si notre population continue à s'accroître au même rythme, ce pays aura besoin de plus de 100% des ressources de la planète pour maintenir nos standards de vie habituels. C'est une impossibilité mathématique, sans compter le fait qu'il y aura alors 7 milliards d'hommes sur Terre et que peut-être ils aimeront avoir eux aussi des matières premières. Dans ces conditions, à quoi l'univers ressemblera-t-il ?